Cérémania, c'est déjà fini.
Du 15 au 22 mars, Allociné était à Lille pour l'édition 2024 de Cérémania où ont été présentées plus de 50 nouvelles séries. Je suis Maximilien Pierrette et je suis toujours accompagné de Mégane Choquet. Salut.
Salut.
Et pour finir, un petit tour d'horizon de l'un des thèmes clés de cette nouvelle édition de Cérémania, la politique. Alors, on va pas se poser la question et tenter de répondre à la question « Est-ce que les séries sont politiques ?» puisque ça nous prendrait environ 5 heures, ne serait-ce que pour faire l'introduction, et on en serait réduit à citer à peu près toutes les séries qui ont été présentées. Mais il se trouve que c'est un thème qui est revenu énormément et de différentes manières. On a d'abord eu les séries qui étaient politiques par leur discours. On pense notamment à la série anglaise Borders qui évoquait le racisme à travers l'histoire de 5 étudiants noirs qui étaient inclus dans une école d'élite anglaise qui cherchait à se donner bonne conscience. Il y a la série coréenne Pyramid Game qui évoque le harcèlement scolaire, aussi l'égalité des chances qui est une chimère en Corée à travers un espèce de jeu sur la popularité des étudiants. Et on avait également la série Urika qui sera disponible sur Prime Video à partir du 28 mars, qui a été co-créée et interprétée par Booba et qui parle notamment des banlieues.
Et à l'opposé, on a effectivement aussi des séries vraiment ancrées sur la scène politique et dans le milieu politique, notamment la série allemande Herrhausen, The Bunker and the Bomb, une série qui était en compétition internationale et qui revient sur l'ascension méconnue d'Alfred Herrhausen, un banquier visionnaire des années 80, qui était notamment surveillé par la CIA, le KGB, Berlin-Est et la FAR.
Gros palmarès.
Donc autant dire que le monsieur a fait trembler la scène politique internationale. Donc série passionnante qui était en compétition. On avait aussi la série suédoise 8 Months, une série qui était présentée au Panorama International, qui suivait une journaliste propulsée attachée de presse du nouveau ministre des Affaires étrangères après un scandale qu'elle a elle-même fait éclater suite à un tuyau mystérieux, et elle va se rendre compte qu'en fait elle était peut-être un pion dans un grand mécanisme, un grand schéma d'influence politique. Et dans un autre registre, on avait aussi le drame historique Mary and George, série britannique et américaine qui était présentée en séance spéciale, qui revenait sur l'influence de Marie Villiers sur son fils George pour qu'il devienne l'amant influent du roi James VI d'Écosse et premier d'Angleterre. Donc là, on est vraiment sur les jeux d'influence, les jeux de pouvoir pour pouvoir contrôler l'homme le plus important de l'État.
Ce qui fait vraiment écho à la série politique qu'on a vraiment envie de mettre en avant, qui est un peu l'un de nos coups de cœur du festival, c'est une série française qui s'appelle Dans l'ombre.
Oui, Dans l'ombre, un thriller politique à la française. C'est vrai que c'est un genre de série qui s'est de plus en plus développé dans l'Hexagone. Pour citer des exemples réussis, on a évidemment Baron Noir, série Canal+, portée par Cadmerad. On a aussi la série Parlement sur France.tv, qui est vraiment une jolie comédie et très intéressante. Et puis dans le registre encore plus décalé, encore plus burlesque, on a la série Sous contrôle sur Arte, portée par Léa Drucker. Et on avait aussi d'autres séries politiques comme Les Hommes de l'Ombre. Donc voilà, c'est un genre qui se démocratise de plus en plus en France, mais c'est vrai qu'on avait toujours un parti pris très prononcé, soit on était vraiment dans le drame, dans le thriller à fond, ou alors on prenait le contre-pied avec un registre plus comique. Mais il n'y avait pas vraiment d'entre-deux et il n'y avait pas vraiment de série politique française à grande échelle dans le sens pour le grand public.
Oui.
Et je trouve que Dans l'ombre arrive bien à s'inscrire dans ce juste milieu-là. Donc Dans l'ombre, c'est une adaptation du roman d'Édouard Philippe et de Gilles Boyer. Donc,
c'est ancien Premier ministre.
Ancien Premier ministre, donc il connaît son sujet. Mais ce n'est pas une autobiographie ou une biographie, c'est un roman de fiction.
Oui, c'est vrai, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, Édouard Philippe, mais la majorité, ce sont des non-fictions. Là, c'est pas le cas.
Là, c'est une fiction qui a été publiée en 2011. Donc Dans l'ombre, pour resituer un petit peu l'histoire de cette série, c'est tout simplement une plongée dans les coulisses d'une élection. On suit d'abord les primaires de la droite pour ensuite arriver jusqu'à la course à la présidentielle, et on suit le point de vue de César Casalonga, qui est un apparatchik et qui est un conseiller d'un des candidats de la droite, qui va ensuite devenir le candidat de la droite pour les présidentielles. Et le petit problème, c'est que pendant ces élections des primaires de la droite, qui sont gérées par une société annexe qui s'appelle Droïd et qui donc met en place des votes électroniques, on se rend compte qu'il y a eu une fraude, qu'il y a eu un hack. On ne sait pas encore, dans les premiers épisodes, à quel moment ça a balancé pour quel candidat. Mais en tout cas, il y a bien une fraude. Il y a eu un hack et ça remet tout en question. Ça remet en question la valeur du candidat, sa victoire, mais aussi tout ce en quoi croit profondément César Casalonga, qui est donc le conseiller de ce candidat à la présidentielle.
Oui, parce que ce qu'on voit dans la série, sans vraiment spoiler, c'est que les conséquences du hack, ça fait qu'il y a un trouble sur un nombre assez infime de votes qui fait que, vu que ça a été serré entre les deux candidats, donc joués par Melville Poupeau et Karine Viard, on se rend compte que potentiellement, ce hack a fait pencher la balance en faveur de Paul Francoeur, mais d'une manière illégale.
Et au-delà du côté fictionnel, vraiment très romancé, de la série Dans l'ombre, on a quand même ce miroir de la politique française qui est vraiment... vraiment passionnant dans le sens où c'est très documenté.
Ah, on y croit totalement.
On y croit totalement. On sent bien que Gilles Boyer et Édouard Philippe ont joué leur rôle de conseiller aussi et de consultant sur cette série qui est créée par Pierre Scheler, à qui l'on doit notamment l'excellent film L'exercice de l'État. Donc,
quelqu'un
qui s'y connaît aussi en politique. Donc on a vraiment des experts de la politique à la tête de cette série. Et on voit vraiment que ça est très... très documenté, que les acteurs ont été bien coachés, ont été bien formés, et que ce soit dans la manière de s'exprimer, la manière de se mouvoir, la manière de se montrer face à des potentiels électeurs. Et d'ailleurs, on a rencontré Melville Poupeau et Karine Viard à Sériemania pour discuter de la série, et ils parlent très bien de ce côté très documenté et très réaliste de la série.
C'est adapté d'un livre écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer, le conseiller politique de Juppé, puis après d'Édouard Philippe. Donc on sent est adapté par Pierre Scheler, qui lui-même connaît bien la chose politique pour avoir réalisé des films sur le sujet. Donc on savait que c'était quand même très documenté. Et pendant les séances de travail, en amont, quand on faisait des lectures entre nous, il y avait aussi ces deux conseillers politiques scénaristes qui nous reprenaient sur telle phrase, nous donnaient des conseils, comment se tenir, ce que c'était que vraiment les coulisses du pouvoir. Donc il y avait, comme dans certaines séries qui pourraient parler de, je sais pas moi, du tennis ou... de la pêche au gros, il y a des spécialistes, des conseillers, et là on était vraiment soutenus par leurs connaissances et leurs pratiques.
C'est une série qui est extrêmement réelle et très bien documentée. C'est pas du fantasme en fait, tout ce qu'on voit est extrêmement réel. J'ai l'impression qu'on voit souvent les gens dans l'exercice du pouvoir, mais là c'est vraiment les coulisses, c'est vraiment les conseillers, c'est vraiment comment ça parle derrière le dos pour faire ceci. Tu vois à quel point les hommes politiques sont aussi la marionnette d'enjeux qui les dépassent, à quel point ils doivent reprendre à leur compte un discours qu'ils ne cautionnent pas, mais parce qu'il y a un certain nombre de choses qui font que... Et puis, ils sont les candidats d'un parti, et que ce parti, c'est ce parti qui les a amenés là, qui les a soutenus, qui les a nourris depuis qu'ils sont rentrés en politique. Donc, ils peuvent pas être tout seuls. Même s'ils ont des gros égos, en fait, ils doivent répondre à un parti. Parce que si le parti te lâche, tu n'es plus rien. Et donc tu vois tout ça, et c'est extrêmement réel et assez captivant.
Et on sent justement, ce que tu disais sur à la fois que c'est une fiction mais que c'est quelque chose de très documenté, en fait l'épisode 1 c'est ce qui montre vraiment, parce que on commence avec, en fait c'est un reportage qui est fait par une chaîne de télé ou par des documentaristes sur cette primaire. Donc on voit des personnages qui s'expriment face caméra, notamment le personnage de César Casalonga qui est joué par Swan Harlow, qu'on voit parler à la caméra et donc à nous, et après cette caméra documentaire disparaît pour laisser place à la fiction, presque à la science-fiction j'ai envie de dire, parce que la série, donc tu disais que le livre a été écrit en 2011, mais la série commence en décembre 2024, donc vraiment dans quelques mois, et quand la série sera diffusée, même si on n'a pas encore de date, ce sera encore le futur. Donc voilà, il y a quelque chose en fait de à la fois très proche et d'un tout petit peu éloigné, et en même temps pas tant que ça, parce qu'il n'y a aucun truc qui nous paraît être vraiment de la science-fiction pure. C'est juste que ce sont des choses qui ne sont pas encore là, des choses qui pourraient se produire, des technologies qui pourraient être utilisées aussi pour le vote et qui pourraient donc être hackées comme elles le sont ici. Mais c'est assez réussi comme exercice, à la fois de vouloir être ancré dans la réalité, comme tu l'as dit, comme ont très bien dit aussi Melville Poupeau et Karine Viard, et en même temps de partir sur du « et si », en sachant que la série, elle tombe une année d'élection présidentielle américaine où le vote électronique est quand même beaucoup plus répandu jusque dans le vote final. Donc en plus, ça la rend d'autant plus universelle qu'on va entendre parler, nous, de vote électronique ailleurs qu'en France, là au moment où peut-être la série sera diffusée.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu anticipation dans cette série politique, parce qu'il y a énormément de questionnements sur la course à la parole, la course aux réseaux sociaux, la course à la technologie, et puis même l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est aussi une des grosses thématiques de ce festival.
Mais oui, c'est pour ça que c'est vraiment la série la plus emblématique de cette édition.
Elle réunit toutes les thématiques phares de cette édition 2024. On a voilà la politique, l'intelligence artificielle, la croyance même, parce que bon, dans un parti politique, la croyance est quand même un élément fort de tout parti politique. Et on a aussi le côté très intimiste,
oui,
parce qu'on va vraiment plonger aussi dans la vie personnelle de ces personnages, parce que même si on fait partie intégrante d'une famille politique, on est très très seul. Les personnages sont très solitaires. Ils doivent porter un message, ils doivent former un groupe, mais ils sont très très seuls parce qu'ils doivent prendre des décisions très importantes au sein d'un parti et ensuite quand ils deviennent chef d'État. C'est vrai que c'est ce parallèle entre l'ensemble, le groupe et la solitude est vraiment bien dépeinte dans la série. Parce que c'est vrai que, voilà, sans trop spoiler, donc on parle de cette fraude, de ce hack dans ce système de vote électronique, mais la série prend aussi le pouls de notre société actuelle avec tout ce qui fait événement, notamment quand il y a des élections, tout ce qui fait événement dans la société, voilà, tout ce qui est grève, le mal-être d'une société aussi dans différents corps de métier, qui crie à l'aide hein, aux futurs candidats présidentiels, avec des thématiques qui nous touchent tous, la course à la parole, la course à l'information, la place prépondérante des réseaux sociaux et vraiment cette communication très intense et très oppressante aussi, très étouffante.
Ah oui.
Qu'on reçoit chaque jour. Et d'ailleurs, Melville Poupeau nous en parle très bien.
Bah ça, la force de Pierre Scheler aussi, et à partir du livre des deux autres, là, c'était il voulait vraiment ancrer ça dans un monde presque pas futuriste, mais enfin, disons un petit peu anticipé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais qui va arriver très prochainement. C'est-à-dire la place prépondérante de plus en plus de l'intelligence artificielle, de tous ces ordinateurs, de toute ce flux d'images, ce flux de réactions en direct. C'est-à-dire que moi, il y a des scènes dans le film où je fais un meeting, je parle d'un sujet, mais pendant que je fais mon meeting, une information arrive sur le portable de ma conseillère qui change totalement la donne. Donc il faut toujours, c'est même plus avoir un coup d'avance, c'est avoir 12 coups d'avance. Et malgré tout, mon personnage qui essaie de garder la raison, c'est ça que je trouve beau aussi dans le dilemme de mon personnage, c'est de dire non, je ne vais pas réagir à chaud, je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que tout le monde se met à dire n'importe quoi et veut capter l'attention des spectateurs, ou des électeurs en l'occurrence. Moi, je veux prendre mon temps pour réfléchir et dire quelque chose de sensé et qui va dans le sens de mon programme. Donc on assiste à tout ça, c'est vrai que c'est assez original.
La série se déroulant en fin 2024, comme tu le rappelais, Maximilien, on se rend compte quand même qu'il y a énormément de changements et d'évolutions par rapport au livre d'Édouard Philippe et Gilles Boyer qui avait été publié en 2011. Et c'est le travail aussi de Pierre Scheler qui a permis voilà, de nourrir le scénario et de nourrir l'intrigue avec des éléments nouveaux et des éléments qui nous parlent beaucoup plus.
Oui, et quand on voit que c'est Pierre Scheler qui est attaché à cette série, on n'est pas surpris. Pas tant surpris que ça d'ailleurs de sa réussite, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il a réalisé un film qui s'appelle L'exercice de l'État, où il montrait qu'il connaissait bien les rouages du milieu de la politique et qu'en même temps il savait le mettre en scène, vraiment au sens cinématographique ou ici en termes de mise en scène de série. C'est qu'on a vraiment l'impression de voir non pas un documentaire, c'est qu'il fait attention beaucoup à la forme, et c'est en ça aussi que la série se démarque. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à une époque on savait pas trop sur quel pied danser avec les séries politiques. Bah là, il en fait quelque chose de vraiment incarné sur le fond et sur la forme. Et on sent qu'il a dû être influencé par pas mal de choses, a priori anglo-saxonnes, parce que même si on peut se dire que Baron Noir a ouvert la porte aux séries politiques en France, les influences majeures, et là on le ressent clairement, ce sont plus des influences anglo-saxonnes.
Complètement. C'est vrai que j'ai pu en discuter aussi avec Pierre Scheler et Gilles Boyer donc pendant le festival, et on sent que c'est vraiment, enfin que dans l'ombre c'est vraiment le juste milieu entre À la Maison Blanche, série politique américaine culte,
référence
absolue, et House of Cards.
Autre référence.
Qui est aussi devenue effectivement une référence dans le genre des séries politiques. Il m'expliquait voilà que à la Maison Blanche on suit un candidat qui a une image plutôt positive. Alors que dans House of Cards, Là, on est sur
c'est
un...
presque l'inverse.
On est presque l'inverse. Hein. C'est quasiment un anti-héros politique hein, dans House of Cards. Et donc, ce que voulaient faire donc, Pierre Scholler, Gilles Boyer et Édouard Philippe avec la série Dans l'ombre, c'est vraiment trouver ce juste milieu et explorer la zone grise. Donc, c'est-à-dire d'avoir des personnages qui ne sont ni gentils ni méchants, mais qui sont entre les deux, avec leurs qualités et leurs défauts, avec leurs succès et leurs fêlures. Et ce que je trouvais assez honnête comme démarche, c'est de vraiment montrer que bah, chacun a sa part d'ombre.
Et bah ça,
hop, petite référence au titre.
Exactement, c'est vrai que le titre, tu peux le lire déjà dans l'épisode 1 et encore plus dans l'épisode 2, tu peux le lire de plein de façons parce que c'est évidemment ce que ça peut être le personnage de Son Arlo qui est dans l'ombre de celui de Melville Poupeau, alors que pourtant il joue un rôle primordial dans son ascension. Ça peut être ce que chacun cache. Dans l'épisode 2, par exemple, on se rend compte que le personnage de Melville Poupeau est peut-être beaucoup plus trouble qu'on ne le pense, sachant que c'est un personnage aussi qui est en fauteuil roulant. Et je sais pas Tom, en fait, au début, moi j'avais pensé que c'était quelque chose de naissance, et en fait dans l'épisode 2, tu vois qu'il a des cicatrices, donc ça sous-entend qu'il a eu un accident.
Ouais.
Et voilà, il y a même des espèces de rappels assez fréquents à tout ça, donc tu te dis, il a aussi un passé qui fait que ça l'a amené jusqu'ici. Le personnage de Karine Viard aussi, qui a l'air à la fois de qui est très individualiste en fait, qui
très
est prêt
dur,
à sauter sur la moindre occasion, et le dans l'ombre aussi, c'est cette petite zone d'ombre dans laquelle les hackers se sont engouffrés au moment du vote électronique, sachant que voilà, l'IA et le vote électronique, pour l'instant, c'est une grosse zone d'ombre aussi pour beaucoup, parce qu'on connaît quelques possibilités, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, et on ne sait pas comment on peut le contrôler. Donc le titre, en fait, il se re-révèle à chaque épisode pour l'instant, et c'est très fort. Et effectivement, la référence à House of Cards, on la retrouve dans la thématique et même dans la forme, parce que beaucoup plus dans l'épisode 1 que dans l'épisode 2, d'ailleurs, on a pas mal de moments où on a une voix off ou Son Arlo qui s'adresse à la caméra. J'ai eu des petites réserves là-dessus au début parce qu'il y a un moment où je sais plus trop ce qu'ils veulent faire exactement, parce que une fois que t'as fini la partie reportage, ils continuent à nous parler, donc je sais pas trop dans quel cadre. Par contre, ils lèvent un peu le pied dessus sur la suite, et quand ça revient dans l'épisode 2, c'est hyper bien calé et ça rappelle vraiment les grandes heures de House of Cards. Donc en plus, c'est pas non plus une série qui te dit « je suis le House of Cards français ». C'est qu'il y a... tu sens que c'est une influence, mais que la série a sa propre personnalité aussi.
Oui, c'est vrai que j'avais des réserves aussi au début sur le premier épisode, parce que je trouvais ça assez fabriqué et pas assez, comment dire, pas assez incarné dans le sens très joué. Je trouvais ça très joué au début, enfin dans les peut-être 20 premières minutes du premier épisode. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que c'est que ça a été un exercice un peu de mise en scène, dans le sens où voilà ce que vous pensez de la politique, du milieu politique, que c'est quelque chose de très surfait, très joué, avec des petites phrases toutes faites, des éléments de langage qui sont très, très pointus et qui peuvent perdre n'importe qui, hein, franchement, vraiment. Et donc c'est une réalité aussi hein, quand les politiques s'adressent à nous, voilà, il y a ces petites phrases bien faites, ces éléments de langage, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est un peu détricoté, et puis on plonge vraiment dans le vif du sujet et dans la réalité et dans la vraie vie de ces personnages et dans l'urgence aussi. Je trouve qu'il y a un très bon rythme dans la série, que ce soit au niveau des intrigues voilà qui s'enchaînent, des révélations, des rebondissements, etc. Et même dans la musique qui nous porte vraiment dans ce rythme effréné, dans cette course vraiment contre la montre, qu'elle soit la course présidentielle ou alors la course contre la recherche de la vérité sur ce hack.
Alors, en fait, la grande question maintenant, c'est quand est-ce qu'on connaîtra cette vérité ? Quand est-ce que la série sera diffusée sur France Télé ?
Eh bien, on n'a malheureusement pas de date encore. Pas encore de date, malheureusement, mais ce sera cette année, ça c'est sûr, 2024, sur France 2. De toute façon, il va falloir un peu se rapprocher et coller aux dates de la série.
Que ce ne soit pas une série du passé.
Voilà, que ce ne soit pas une série du passé, puisqu'elle démarre fin 2024. Donc, je pense que la date de diffusion va se rapprocher de l'intrigue de la série. Donc, ce sera pour cette année, sur France 2. Et je pense que c'est une bonne chose qu'elle soit diffusée sur le service public, parce que justement je pense que voilà, cette série politique qui se distingue, je trouve, dans le paysage audiovisuel français va pouvoir rassembler et attirer un public beaucoup plus large. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite à cette série Dans l'ombre qui était donc en compétition internationale. Faut le souligner, oui. c'est quand même important dans cette édition 2024 de Sériemania.
Et cette édition 2024 de Sériemania qui justement se termine pour nous sur cette belle note. Vous pouvez retrouver le palmarès en ligne sur Allociné. Et nous, bah, il est temps de rendre l'antenne et de remercier voilà, tous les attachés de presse, les organisateurs, les talents aussi qui sont passés à notre micro et qui ont été passionnants. Vous avez pu l'entendre déjà là avec l'équipe de Dans l'ombre. Merci à toi, Mégane, pour ton enthousiasme, ta passion et tes éclairages. C'était un plaisir de faire ce festival et ces podcasts avec toi.
Bah, merci à toi aussi, Maximilien. C'était un plaisir de faire ce festival et ces podcasts.
Oui, exactement. Et merci aussi à Arthur Tournoyet qui était à la réalisation et au montage de ces trois épisodes que vous avez pu écouter. Ou alors, on vous encourage
à
écouter et réécouter les précédents, surtout quand les séries seront diffusées. Et voilà, bah, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous sur... On reste dans la politique comme ça. J'espère qu'Arthur saura nous mettre le bon son qui
ira avec. Qui accompagnera bien, ouais.
Mais on vous donne rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition de Sériemania et sur Allociné très vite pour d'autres podcasts. Salut.
Salut.
Au revoir.
Allociné.